Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que ça va bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour la dernière de la semaine de C'est bon pour la santé sur Canal M. Ben, vous pouvez vous l'imaginer, oui, c'est plutôt un luxe d'avoir un médecin pour discuter, un médecin à sa table, face à soi, pour discuter de la vie, de la mort, hein, qui sont extrêmement liés. Ben, c'est le plaisir que je me permets aujourd'hui avec Dr Serge Danneau, qui sera là pour parler de son expérience, une expérience forte de 25 ans en soins palliatifs, de son travail, de ses collègues, de ses préoccupations sur le milieu médical et aussi de son dernier livre, Un médecin se confie pour des soins plus humains. Mais d'abord, vous savez, de façon mensuelle, Florence Menet, elle qui travaille du côté de l'Institut Douglas, du côté des relations avec les médias et à la direction des communications, nous livre une revue de presse, d'initiatives et de nouvelles sur la santé mentale. Et aujourd'hui, elle nous parle d'une étude complètement fascinante menée par des chercheurs québécois, le projet Verglas. On l'écoute à l'instant. Bonjour Florence Menet.
Bonjour Marianne, ça va bien?
Ça va très bien vous-même?
Oui.
Alors, une nouvelle qui a retenti pour commencer vraiment beaucoup, beaucoup dans les médias dans les derniers jours et qui a comme genèse cette tempête de pluie verglaçante de janvier 98 dont on a entendu parler beaucoup, qui a touché 3 millions de Québécois pendant 45 jours. Et il y a une équipe de chercheurs de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et de l'Université McGill qui a eu envie de profiter de ce moment-là pour étudier les effets du stress sur les femmes enceintes, leur grossesse et leur enfant à naître. Ça donnait quoi comme résultat 13 ans plus tard?
Ce qu'il faut dire, c'est que cette étude-là est en cours depuis des années, hein, mm-hmm. et donc elle a déjà produit des résultats. C'est ce qu'on appelle en effet, comme tu l'as mentionné, le projet Verglas. Pendant 45 jours, donc, des gens étaient plus ou moins privés d'électricité et des femmes enceintes parmi ça. Et l'idée, c'était donc de voir si le stress maternel avait un effet sur le fœtus, sur son profil génétique en particulier. Et la semaine dernière, donc notre équipe, et là on parle du Douglas et de McGill évidemment, mm-hmm. A sorti un article qui a eu du retentissement, comme tu l'as mentionné, et qui montre que, dans le fond, on détectait une signature distinctive génétique distinctive chez les enfants dont les mères ont été privées de d'électricité pendant plusieurs jours. Donc, il y avait un impact sur le profil épigénétique de l'enfant né d'une mère qui avait souffert d'un stress maternel pendant le verglas. Alors ça, évidemment, ça ouvre la porte à tout un pan de réflexion sur l'impact que le stress, et pas juste dans le cas du verglas, mais dans bien des situations de stress, peut avoir sur le fœtus. Ça ouvre toute une réflexion sur comment protéger la mère dans des conditions difficiles, quoi.
Est-ce que l'on sait, c'est vraiment le stress vécu par la mère mm-hmm. et pas tant la différence de climat qui a amené des modifications?
C'est vraiment le stress objectif. C'est ça que cette étude-là a montré. Mm-hmm. C'est pas le stress perçu non plus si une femme se sentait stressée, mais c'est les conditions dures qu'elle a vécues. Alors évidemment, il faudrait voir dans d'autres conditions de stress, je sais pas moi, un tremblement de terre, si ça peut se reproduire, mais dans ce cas-là, c'était vraiment vérifiable.
Mais qu'est-ce que cette étude-là amène d'extraordinaire? C'est de voir des femmes dans d'autres pays qui vivent en climat de guerre constant. Qu'est-ce que ça pourrait également amener sur leur fœtus, sur leur grossesse, sur les enfants de leur famille, également tous les effets sur la santé. Il y a de ça qui est formidable dans cette étude-là.
Tout à fait. On peut dire que le monde entier est un champ d'études incroyable, surtout en ce moment avec tous les conflits qu'on peut vivre. Le docteur Susan King s'intéresse depuis longtemps justement à cet aspect-là, à savoir l'impact du stress auprès des femmes et surtout de leurs enfants. Quoi.
Est-ce qu'on connaît l'effet sur la santé de ces enfants-là qui ont vécu la crise de verglas?
Je ne vais pas trop m'avancer parce qu'il y a des études qui sont en cours, mais c'est un champ qui est actuellement à l'étude et on devrait avoir des résultats intéressants, en particulier sur des questions comme l'asthme, par exemple, qui aurait un lien avec le stress de la mère.
Asthme, diabète, obésité, on lisait ça, mais c'est à suivre. Donc, projet Verglas mené par l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, dont vous faites les relations médias et la direction des communications, Florence, et l'Université McGill. Également, on voulait parler ensemble, Florence, de ce programme de l'école Mini-Psy mené par Douglas qui débute, si je ne me trompe pas, mercredi prochain, 15 octobre.
Exactement. Alors, ce que c'est Mini-Psy, c'est une série de conférences qui s'adressent au public. Vraiment, c'est l'idée d'avoir des gens de haut vol, hein, intellectuellement, puis qui sont capables de vulgariser comme il faut des questions qui touchent au bien-être psychique des gens. Et comme vous le disiez, ça commence le 15 octobre avec une première conférence. Une série de quatre. Le premier thème, c'est Camille Ozakia qui va l'animer. Donc, c'est notre psychologue en résidence ici au Bureau d'éducation en santé mentale. Et le sujet, c'est Santé mentale 101, trouver le nirvana dans une tasse de café et autres secrets du bonheur.
Assez accrocheur.
Oui, oui. Ensuite, ça va être suivi le 22 octobre d'un sujet qui, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup. C'est quand les valeurs du travail nous envahissent. Ouais. Et c'est donné par Michel Perrault, qui est psychologue et chercheur ici au Douglas, et qui a également écrit un livre et qui est vraiment ferré dans cette question, à savoir comment délimiter notre terrain personnel, privé, et comment ne pas laisser le travail nous envahir, ce qui n'est pas toujours évident, on peut s'entendre là-dessus. Là.
Ouais.
Ensuite, on aura le 29 octobre un sujet qui est particulièrement intéressant au Québec, où beaucoup de gens vivent seuls.
Avec nul autre que Rosemarie Charest.
Exactement, wow. Et sur la solitude, est-ce que c'est un fardeau ou une amie? Donc ça, c'est aussi assez intéressant comme sujet, je dois dire.
Ah, j'ai trouvé ça formidable, je l'ai même noté. Cette discussion-là, vous allez en profiter pour faire la différence entre l'isolement, le vide et la solitude. C'est vrai qu'on ne départage pas tant ces trois termes-là. Et si cette discussion amène une lumière sur ce questionnement-là, bien, ça a quelque chose de fort intéressant.
Je pense que beaucoup de gens vont se sentir interpellés par le sujet.
Ouais.
Et on va clore le 12 novembre avec un sujet qui touche à la nutrition. C'est retrouver le bien-être en renouant avec le corps et l'assiette. Donc, on a Jody Richardson, qui est psychologue et cofondatrice de la clinique Change. Et Vanessa Perron, qui est une nutritionniste de la même clinique, qui vont venir donc nous entretenir de ça. Alors, ça pourrait être intéressant et on a jusqu'à donc vendredi 17h, je le note, un 2 pour 1 pour le prix d'inscription. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous amenez un ou une amie ou un membre de votre famille et ce sera gratuit pour cette personne. Alors, allez sur le site du Douglas et vous verrez, on vous guidera pour vous inscrire.
www.douglas.qc.ca, ouvert à tous. Ça peut également se faire en web diffusion, Florence, l'école
Mipsy. Exactement, on a une formule web diffusion également. Donc, vous voyez, c'est flexible, mais c'est sûr que ça vient en groupe de quatre conférences, dans tous les cas.
Mm-hmm. OK, d'accord. À suivre, mais vraiment des discussions fort captivantes que vous annoncez là. Également, vous aviez l'humeur à la fête hier, Florence, parce que c'était le soulignement de l'anniversaire du 70 ans des AA qui a débuté à Douglas. Je ne savais pas ça.
En fait, les AA du Québec, hein, c'est de ça qu'on parle, parce que les AA américains existaient avant. Mais c'est, en effet, c'est au Douglas que c'est né, que ça a été introduit. Dans les années 40, il y avait un patient qu'on appellera Dave B, qui était un cas très lourd, quelqu'un qui avait des gros problèmes de dépendance à l'alcool et qu'on avait jugé plus ou moins incurable, vraiment mal barré, comme on dirait au Québec, et qui a rencontré dans les jardins du Douglas un jeune psychiatre, Travis Dancy, qui lui a présenté, qui lui a donné le livre des AA. Alors, la petite histoire veut que l'homme l'aurait d'abord jeté, l'aurait rejeté, avant de le reprendre puis de le dévorer. Et c'est cet homme-là, ce Dave A, qui a non seulement transformé sa vie avec les AA, mais qui les a introduits ici, qui tenait des réunions dans un sous-sol. Et aujourd'hui, rien qu'à dans la région de Montréal, il y a 12 000 membres des AA. Alors en effet, hier, on avait une petite cérémonie, une plaque commémorative. On a parlé de tout ça. C'est quand même un mouvement qui aide encore beaucoup, beaucoup de monde. Un mouvement d'écoute, de solidarité, où on ne juge pas et qui aide les gens à rester sobre un jour à la fois.
Oui, on peut dire que ça a fait des petits un petit peu partout, là, si on parle de 12 000.
Oui, en effet. Et là, je parle seulement pour Montréal, parce qu'il y a dans 4 régions du Québec qui sont implantées. Donc, il y a des pôles un peu partout et c'est ouvert à tous. Ça se multiplie. Puis, je pense qu'on peut dire que ça a bien vieilli.
Oui, une belle fierté à souligner, en effet, Florence. Mm-hmm. Et ben, pour terminer, c'est la semaine de la sensibilisation à la santé mentale. Ça a débuté le 5 octobre dernier. Ça se poursuit, oui, se poursuit jusqu'au 11 octobre. Vous avez célébré ça à votre façon, au Douglas, Florence?
Oui, on a toutes sortes d'activités, mais surtout, je vous invite à venir sur notre site Internet et aussi notre page Facebook. Vous verrez, on a des blogs, on a des nouvelles, des tas de choses qui peuvent vous informer sur des aspects de la santé mentale au sens large qui touchent tout le monde. Ça peut être des problèmes alimentaires, ça peut être un coup de déprime avec l'arrivée de l'automne. Donc, on a des tas de petits conseils. N'hésitez pas à venir nous voir.
Florence Monnet, je rappelle, vous êtes aux relations avec les médias et direction des communications affaires publiques à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois.
Merci. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour, Dr. Dano.
Bonjour.
Et nous, on avait déjà commencé la discussion hors micro. C'est un plaisir de vous retrouver tout d'abord. C'est pas la première fois qu'on se rencontre.
Le plaisir est pour moi aussi.
C'est la troisième fois qu'on se rencontre, Serge Dano. Vous êtes un médecin en soins palliatifs. Ça fait 25 ans. Et votre travail, moi, ce que je retiens de vous, c'est qu'il y a un côté, une dimension très, très humaine derrière votre travail et que même si vous côtoyez la mort tous les jours, vous accompagnez des gens, vos patients dans la mort, il y a vraiment une grande célébration de la vie de votre côté, un grand respect de la vie. Peut-être que c'est le fait que vous côtoyez la mort tous les jours qui amène ce respect-là et cette reconnaissance-là. Dans ce livre-là que vous venez de sortir, Un médecin se confie pour des soins plus humains, vous avez voulu partager votre expérience, que ce soit avec des collègues, et ça se fait sous forme épistolaire, donc vous avez adressé des lettres à des patients également, des collègues. Pourquoi vous avez eu ce désir-là, ce besoin-là d'écrire le livre?
Ben en fait, moi, je pratique depuis 34 ans, alors et je suis encore en pratique active, c'est-à-dire que je suis toujours dans le milieu de la santé. Je ne suis pas encore retraité, même si ce moment-là s'avance à chaque jour de quitter. Alors, je me suis dit, je suis encore autorisé à parler. Parce que je vois ce qui se passe, d'une part. Puis d'autre part, j'ai eu vraiment le goût avec ce dernier livre-là de dire ce que je pense de la médecine, des services de santé, des choses qui vont très bien, puis des choses que moi je dénonce, des choses qui devraient être modifiées ou améliorées. C'est pour ça que le sous-titre, c'est pour des soins plus humains.
Ouais.
Parce que je pense qu'il y a une place pour humaniser nos soins de santé.
Selon vous, c'est une faiblesse du système de santé?
Oui, je pense qu'il y a des forces et des faiblesses. Moi, je pense que les gens le disent tous. Hein, ils vont dire une fois qu'on est entré, une fois qu'on est soigné, pris en charge, les gens qui s'occupent de nous, c'est des anges, ils sont extraordinaires. Et ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est la grande force de notre système de santé, c'est qu'il y a des gens extrêmement dévoués, extrêmement compétents, que ce soit médecins, infirmières, pharmaciens, préposés, etc. Ce sont des anges, ils sont extraordinaires. Par contre, l'accessibilité, le fonctionnement en tant que tel, l'absurdité de certaines mesures, on pourrait faire de déshumaniser le système et de le rendre et de provoquer la souffrance des patients et des proches lorsqu'ils y sont soumis.
Si on déshumanise, est-ce que c'est parce que le personnel soignant, à force de côtoyer des gens malades, des gens qui souffrent, et ça, c'est un terme que vous utilisez, est usé, on use la compassion?
Oui, on use la... Ça, c'est deux phénomènes, par contre, que moi, je vois différents, que je vois distincts. L'usure de la compassion, c'est effectivement ce phénomène par lequel des gens, étant soumis à une souffrance intense et n'ayant pas, ne possédant pas les moyens du soulagement, bien, deviennent usés et quittent le système. Ça, c'est un phénomène que j'ai bien décrit dans le livre. Et c'est malheureux, mais ça survient. Et c'est les meilleurs qui partent. Mais de l'autre côté, c'est pas ce phénomène-là qui fait que les gens sont moins bien soignés ou sont soignés de façon inhumaine. C'est vraiment... des choses, par exemple, qu'on remplace pas les gens malades, ça c'est sûr que ça peut pas être en accord avec un bon soulagement. Si une infirmière dans une salle d'urgence s'occupe, je sais pas moi, de 12 patients, et puis elle rentre un soir où, ben, c'est une infirmière à qui je parle d'ailleurs qui travaille de soir dans une urgence, elle rentre le soir, puis elle en a le double, et bien évidemment, il y a quelque chose qui va sauter. Et ça, c'est le patient qui est au bout de la ligne. Paye. Et ça, on l'oublie trop souvent.
Quand le patient et sa famille.
Le patient et ses proches. Mm-hmm. On parle beaucoup du système de santé avec certaines nouvelles, là, des annonces politiques, etc. Puis moi, je suis toujours étonné d'entendre très peu parler du patient.
Oui. Hein?
Ah, on parle des structures, on parle des soignants, on parle des changements qu'on veut faire, on parle de coupures, mais on parle pas beaucoup du patient.
Des besoins et de ses préoccupations. C'est quoi les préoccupations des patients, leurs besoins?
Moi, je pense que les patients sont beaucoup plus matures qu'on a tendance à le dire. On a tendance à les infantiliser beaucoup. Les gens, ils savent ce qu'ils veulent dans la grande majorité des cas. Et puis, ce qu'ils veulent, là, principalement, c'est d'être soulagés.
Ouais.
Tout simplement. Ça a l'air bien banal de dire ça, mais si on est capable de leur expliquer ce qui se passe, si on est capable de leur dire ce qui leur arrive, et si on les met devant des choix qu'ils ont à faire parce que c'est leur vie, c'est leur santé, je pense que la majorité des patients vont être satisfaits et sauront, à partir de leurs propres ressources, traverser l'événement souffrant. Parce que la maladie, ça amène toujours de la souffrance. Hein?
Oui. Et de l'angoisse.
Et de l'angoisse, bien sûr, c'est une partie de la souffrance.
Une panoplie, d'émotions diverses. Docteur Dano, et on en parlait tout à l'heure, des infirmières avec, que vous côtoyez, avec qui vous travaillez, que vous citez dans ce livre-là, à qui vous vous adressez. Et j'ai trouvé ça très beau, la façon dont vous soulignez leur travail, un peu une ode à leur travail. Est-ce que c'était une façon aussi, parce que le livre, il s'adresse au grand public, mais il s'adresse aussi à la communauté scientifique, de souligner, de rappeler leur travail.
Oui, ben, je pense que c'est important de spécifier que le livre s'adresse à toute personne qui s'intéresse à des sujets là, de ce genre-là. Mais en effet, je pense que c'était la suggestion de mon éditeur, mais initialement, là, ça devait être un livre qui s'adressait qu'aux seuls médecins.
Ouais.
Mais je trouve que c'était une très bonne suggestion parce que nos infirmières, en fait, elles portent le système à bout de bras. Quand on le regarde, là, si vous êtes hospitalisé, si vous vous présentez dans un CLSC ou si vous recevez des soins à domicile, c'est qui vous voyez le plus? C'est l'infirmière.
Ouais.
Et c'est elle qui applique, je dis même dans le livre, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une transformation qui va faire que ce sera que les infirmières qui vont soigner? Ce que moi, je trouverais triste parce que je pense que tous les soignants doivent participer au soin. Le soin qui est pas l'action nécessairement de guérir d'une maladie, mais l'action d'accompagner l'être humain dans son cheminement dans la maladie qui est inévitable.
Mm-hmm. Vous abordez également, et ça sous forme de lettre à un jeune médecin, la surcharge de travail. Est-ce que les médecins sont usés à la longue par cette surcharge-là?
Il y a une surcharge qui vient avec le poids du nombre. Hein,
ouais.
Parce qu'au Québec, on a une génération de baby-boomers qui se retrouvent dans des âges où ils vont avoir des problèmes de santé. Mais il y a une surcharge, il y a une surcharge qui vient par l'absurdité. de la façon dont nous fonctionnons. Certains médecins m'ont expliqué qu'ils sont obligés, lorsqu'ils voient un patient, de ne traiter qu'un seul problème à la fois. Alors, si le patient dit, moi, j'ai mal aux oreilles, mais ça fait que j'entends pas quand les gens me parlent, ça fait que, bon, blablabla. Alors, ils sont obligés de dire, non, on va ne parler que de la principale raison de ta consultation, puis tu reviendras pour un autre problème. C'est complètement insensé. Et ça, les médecins se sentent débordés par ça, parce que c'est absurde. Quand tu vois quelqu'un, t'es mieux de le voir au complet que de le faire venir 12 fois pendant l'année.
Oui. Parce que ça surcharge l'horaire du médecin et le système aussi, tout le système.
Oui, puis le système est absurde dans ce sens-là parce qu'il est plus payant de faire revenir un patient 12 fois que de le voir une fois de façon globale. Et là, je m'inquiète beaucoup de ce qui s'en vient. Il y a des rumeurs qui laissent entendre qu'on ne permettra plus aux médecins d'être rémunérés à taux horaire. Et ça va être une catastrophe pour la prise en charge globale des patients.
Et pourquoi? Pour les gens qui nous écoutent et qui ne saisiraient pas?
Bien, ça va favoriser la multiplication d'actes, parce que deux façons de rémunérer un médecin, on peut le rémunérer à l'acte. Alors, s'il donne une piqûre, s'il fait tel examen, etc., il est rémunéré en fonction de l'acte qui est comme un produit qu'on achète dans un magasin, ou il est rémunéré à l'heure. Donc, pendant qu'il travaille une heure, qu'il voit 10 patients, qu'il en voit un, il va être rémunéré le même revenu. On pense que le gouvernement trouve que c'est improductif de rémunérer des médecins à l'heure.
Oui.
Et apparemment, mais c'est une rumeur, c'est pas confirmé, on enleverait cette rémunération. Ce qui va être une catastrophe pour les grands malades et les malades avec des maladies complexes.
Oui.
Les gens, par exemple, avec des diagnostics psychiatriques complexes, etc., si on trouve pas des aménagements, les patients en phase palliative de leur maladie, en phase terminale, si on trouve pas des aménagements, pour moi, je vois un recul extrêmement grave de la médecine québécoise.
Les patients, c'est eux qui écoperont de ce choix-là.
Alors, on va leur dire qu'est-ce qu'on s'occupe aujourd'hui, puis quel acte qu'on fait, et puis la prise en charge globale, on va l'oublier.
Mm-hmm. J'aurais pu citer, Serge Danneau, plein de passages de votre livre, parce qu'il regorge de réflexions, de questions extrêmement pertinentes qui suscitent la réflexion et le questionnement. J'avais envie de lire un passage en particulier. C'est l'accompagnement qui donne de la valeur à nos vies de médecins. Il nous relie à l'humanité. D'abord, l'humanité souffrante, sans doute, puis l'humanité vivante. Car tout ce qui vit souffre et ce qui ne souffre pas ne vit pas. Et ça se poursuit, c'est la fin d'une lettre. Ces médecins-là sont tout jeunes médecins, à l'école encore en formation. Sont-ils suffisamment formés pour cet accompagnement-là qu'on leur demande?
Ils le sont plus que nous l'étions. Moi, j'ai gradué en 1980, mais ils le sont pas assez. On parlait de soins palliatifs. Vous savez qu'au Québec, on estime à moins de 200 le nombre de médecins qui font des soins palliatifs.
Ouais.
À moins de 200 sur au-delà de 18 000 médecins. Alors, c'est une statistique qui est un peu affolante. Hein? Alors, ils n'ont pas appris, entre autres, je le dis dans le livre, ils n'ont pas appris que la majorité de leurs patients, ils ne pourront pas les guérir. Alors qu'ils ont pensé faire de la médecine pour guérir, un peu comme des mécaniciens qui réparent la voiture. Mais ce n'est pas comme ça. Un patient, par exemple, chez qui on annonce un diabète, il y a certainement plein de vos auditeurs qui souffrent de diabète, ils le savent, ils vont toujours avoir le diabète. Et le médecin, ce qu'il fait, c'est diminuer les effets de la maladie sur la personne et minimiser les conséquences à moyen et à long terme. Donc, il faut être capable de dire, quand je fais un diagnostic, par exemple, de diabète, que je vais accompagner mon patient pendant des années, et je vais l'aider à s'ajuster à cette maladie qui fait partie de la vie.
Ouais. Un peu comme un mécanicien, moi, je le vois aussi un peu comme un super-héros. On leur dit quoi à ces médecins-là à un moment donné pour pas qu'ils vivent cet échec-là? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, quand on voit ces patients mourir, quand on réalise qu'on ne les guérit pas, il y a cet échec-là qui survient.
Bien, écoutez, les médecins sont forcément mis devant ce que tout être humain doit contempler un jour, c'est que nous ne vivrons pas toujours.
Ouais.
Et avec un malade qui va, par exemple, mourir, on est constamment remis devant sa propre mort, mais aussi celle de ceux qu'on aime. Alors, moi, je fais des soins palliatifs, donc je suis avec des patients en fin de vie. Quand je fais mes gardes la fin de semaine et que la dernière fin de semaine, j'ai trouvé ça ahurissant. Je ne suis pas si vieux, j'ai 58 ans. Et tous mes patients étaient plus jeunes que moi.
Oh.
Alors, c'était mes amis. Et puis, même à la rigueur, c'était mes enfants que je soignais d'une certaine façon. Donc, je suis obligé de me dire, bon, ben là, oui, ça fait partie de la vie. Et puis, ça m'oblige à adopter une position dans la vie dans laquelle je sais que ça ne durera pas toujours.
Oui. Vous parliez tout à l'heure, quand vous donniez cet exemple-là de la personne qui souffre de diabète, on ne peut pas guérir du diabète, mais on apaise, on diminue les symptômes. Dans ce qui a trait à l'accompagnement, c'est quoi les facettes de l'accompagnement? C'est pas juste donner un médicament pour apaiser la douleur. Il y a différentes, j'imagine, facettes.
L'accompagnement, c'est beaucoup plus simple que ça peut sembler. Vous savez, l'accompagnement... quand on accompagne quelqu'un, en quelque sorte, on marche à ses côtés. Mm. On marche à ses côtés, on le tient par la main s'il le faut ou non, c'est pas obligatoire. Et on assiste comme témoin à ce qu'il vit. Et on reçoit ce qu'il a à nous dire. De positif, hein, il peut avoir des choses positives, « Docteur, je vous remercie », etc. Mais aussi de négatif. « Docteur, ça ne me convenait pas. J'ai 62 ans et je n'avais pas prévu d'avoir un cancer du poumon et je viens d'avoir un petit-fils, ça ne va pas du tout. » Alors, de le recevoir, de l'entendre, de donner un espace à la parole du patient et à ce qu'il vit, c'est ça l'accompagnement,
ouais.
Essentiellement. Et de ne pas juger la façon dont le patient réagit à ce qui lui arrive.
Vous côtoyez ces gens-là qui... se dirigent vers la mort, vous les accompagnez. Mais il y a vraiment, et en finissant, je veux absolument aborder la facette des proches qui sont là et qui sont sûrement aussi très présents dans cette fin de vie-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aux proches aidants pour les aider à accompagner leurs proches vers la mort?
Alors, les proches, ils sont soumis à un paradoxe extraordinaire, c'est-à-dire que c'est très difficile à vivre. C'est que d'une part, ils ne veulent pas voir souffrir la personne qu'ils aiment. Donc, en quelque part, ils vont souhaiter à un moment donné que la vie se termine, et c'est tout à fait normal parce que c'est rattaché avec un processus qui est douloureux. Puis en même temps, ils aiment la personne et ils veulent être en compagnie de cette personne-là le plus longtemps possible. Et moi, ce que je pense, c'est que les proches, il faut absolument qu'ils acceptent de vivre aussi leur réaction, parce que le problème de la majorité des proches que je connais, c'est qu'ils s'effacent au profit de ce que la personne malade est en train de vivre. Et ils ne vivent plus ce qu'ils ont à vivre. Et c'est correct de dire, même à la personne malade, tu sais, c'est difficile pour moi aussi. Tu sais, j'ai manqué de sommeil, je suis fatigué, j'ai de la difficulté à prendre des décisions, etc. Ça se dit, ça. Parce que de toute façon, la personne que vous aimez qui est malade s'en rencontre. Et cette espèce de mutisme, ce mur de silence, ce n'est jamais bon. Dans une relation, d'ailleurs, on le vit quand on n'est pas malade avec les gens qu'on aime.
Sûr.
Les choses qui sont tues, qui sont occultées, bien, c'est souvent celles qui nous font le plus mal.
En terminant, dans ce dernier ouvrage, Un médecin se confie pour des soins plus humains, qu'est-ce qu'il y a d'intime là-dedans?
Ah, mais il y a beaucoup de choses intimes. Il y a beaucoup de choses intimes, mais je suis pudique quand même. Alors, c'est dit un peu en filigrane, c'est dit un peu indirectement, mais je dirais, je l'ai fait parce qu'il y a des jeunes médecins qui me demandaient des conseils, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et je suis très heureux de l'avoir fait. Et ceux qui le liront, ben, vont découvrir un petit peu plus qui je suis, même si je ne les connais pas.
Merci beaucoup, Dr Serge Danneau, de vous être permis de prendre cette parole-là. On a encore envie de vous entendre et de vous écouter, ça, c'est certain.
On verra. OK, merci beaucoup.
Un médecin se confie pour des soins plus humains, oui, du Dr Serge Danneau, c'est publié aux éditions La Presse. Eh bien, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir été là en cette dernière de la semaine. Merci, Kamal Salifou, pour la belle semaine. Nous, on se retrouve mardi. Eh oui, on prend congé lundi. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye-bye.